J'ai des sources d'inspiration, des femmes célèbres et célébrées, des femmes à la capitale ou à l'étranger, des actrices, des artistes, des journalistes, des militantes, des activistes, des autrices, des sportives. Et c'est en me faisant cette réflexion que parallèlement, je repensais à ma mère, à mes grands-mères, à ces figures de femmes que j'avais sous les yeux tous les jours, celles qui m'entourent, qui m'ont bercée en me contant leur vie. C'est en songeant à leurs combats, leurs envies, leurs idées, leurs projets, que je me suis dit que de nombreuses femmes de nos territoires devaient être mises en valeur. Leur quotidien fait qu'elles sont des femmes d'exception et j'aimerais vous les présenter. Bienvenue chez les femmes de chez moi. C'est une histoire qui débute à Oran, en Algérie, qui se poursuit en France, sur les marchés et les bancs de l'école, dans des ateliers de haute couture et les quartiers politiques de la ville en région parisienne. Cette histoire raconte des mariages, trois dans cet épisode. Elle raconte l'identité, les racines et l'importance de les affirmer, de savoir qui on est. Cette histoire que nous raconte Soumicha Lebrun, c'est la sienne. Elle a fait écho au livre de Faïza Guen que je lisais au moment de l'enregistrement, Kif Kif Demain et La Discrétion, que je vous recommande au passage. Voici donc le 28e épisode qui vient clôturer la série de trois dont les invités m'avaient été recommandés. Soumicha m'a été présentée par son mari, Pierre Brice, en ces termes.
Yo Margot, dis à l'occasion, pour femme de chez moi, tu pourrais peut-être rencontrer mon épouse. Elle a des tas de choses intéressantes à te raconter et en plus tu vas voir, elle est quand même plutôt sympa. Bisous.
Et comme sur les ondes de Radio MDM, on a tendance à faire confiance à l'homme qui nous parle régulièrement depuis son palmier, je l'ai rencontrée et c'est vrai qu'elle a des tas de choses intéressantes à raconter. Bonjour Soumicha Lebrun, merci de m'accueillir ici chez vous dans cette maison achetée il y a quelques années avec l'idée d'y passer sereinement votre future retraite, mais on y reviendra certainement. Pour l'instant, j'aimerais que vous nous parliez de ce que nous venons d'entendre et que vous nous expliquiez ce que ça raconte de vous.
Oui, Rachida, magnifique chanteur algérien. Alors cette chanson, elle me rappelle mon enfance parce que mes parents sont d'origine algérienne. Et ils ont vécu en Algérie et en France. Elle parle beaucoup de l'immigration. Donc à un moment donné, mes parents étaient émigrés en France et ils ont habité la Seine-Saint-Denis. Et c'est plein d'émotions. Elle raconte que toutes ces personnes qui partent à un moment donné dans un pays, elles finissent tôt ou tard à revenir à leur propre pays, leurs propres origines, leur propre culture. Et ça me touche beaucoup parce que la culture et les valeurs, elles sont importantes dans la vie de tout le monde. Ça fait partie de l'identité et elles me touchent beaucoup, c'est vrai.
Vous êtes née en Algérie, Soumicha. Quel lien vous entretenez avec ce pays? Quel rapport vous avez avec la culture algérienne, justement?
Alors, je suis née en Algérie, mais j'avais 3 mois quand je suis arrivée en France. Mais je passais toutes mes vacances en Algérie l'été, puisque à l'époque, on avait quand même plus de 2 mois et demi de vacances. Et donc, on allait en vacances chez ma grand-mère maternelle. Et on passait tout l'été à Tlemcen et à Oran. Mon père est d'Oran et ma mère est de Tlemcen. Donc, c'est des moments important qui m'ont touchée puisque on a double culture, on va dire, parce que l'identité, elle n'était pas facile. Hein. C'est pas facile parce qu'à la fois, à l'époque et même maintenant, je suis française, mais j'ai des origines algériennes. C'est important pour grandir, voilà, pour avoir une identité. Il faut que tous ces éléments, ces valeurs, qu'elles grandissent aussi au fur et à mesure et ne pas oublier son passé et ses origines.
Vous ressentez encore aujourd'hui une influence de l'Algérie dans votre vie ?
Non, du tout. Pas du tout. Parce que déjà, ma grand-mère est décédée il y a quelques années et je n'y suis pas retournée depuis 25 ans. Mais c'est vrai qu'à la fois à travers la musique, les livres, des amis aussi, parce que ici, en Marsan, j'ai pas mal d'amis aussi d'origine maghrébine. Mais voilà, j'ai besoin d'avoir ce sentiment, d'échanger sur ces différences, parce que c'est l'éducation que j'ai eue. Donc c'est vrai qu'à la maison, mon père, il tenait absolument à ce qu'on parle arabe et français. Mais quand on était à la maison, donc on a eu un parcours scolaire identique à tout comment dire, à tous les enfants, hein, mais il avait institué à la maison, à partir d'un certain moment, d'une certaine heure, il fallait parler arabe. Donc c'est vrai, et je le remercie aujourd'hui, parce que je comprends l'arabe, je parle arabe, encore aujourd'hui, mais je ne le pratique pas souvent. Mais j'aimerais bien y retourner, même si ça fait très longtemps, hein, je vous disais 30 ans, donc pour retrouver les jardins de l'époque où on allait avec ma grand-mère, où la ville, la plage, le port, tout ça, la culture, la cuisine, les odeurs, le jasmin, tout ça, ça me manque un peu, oui.
Vous l'avez dit, vous êtes arrivée à 3 mois en France. Vous avez grandi à Stain, c'est oui. Ça, en Seine-Saint-Denis?
Alors le 9-3, hein, c'est vrai, Stain, c'est la Seine-Saint-Denis. Alors souvent, on parle de la Seine-Saint-Denis et de Stain, bien sûr. On en parle dans les journaux, à la télévision, comme une ville où il y a de la délinquance, où il y a des voitures brûlées. C'est vrai, il y a de tout. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas aussi de tout ce qui se fait, des gens extraordinaires que j'ai rencontrés. J'ai travaillé en Seine-Saint-Denis pendant quelques années. Hein. J'ai travaillé à La Courneuve, c'est à côté de Stain, à Bobigny, à Aulnay-sous-Bois. C'est des villes où j'ai vécu, pas vécu, mais travaillé. J'ai rencontré des gens formidables. Et c'est dommage qu'on renvoie qu'une image négative. Et c'est vrai que dans le milieu associatif, il y a beaucoup de gens, au niveau de la culture, du théâtre, j'étais dans le socio-éducatif, et c'est vrai que j'ai rencontré des gens qui m'ont apporté, qui m'ont appris des choses, et qui m'ont permis justement d'aller vers l'éducation et vers l'animation. Et je ne regrette pas. C'est pas une ville dortoir. Bon, la Seine-Saint-Denis, elle est ce qu'elle est. Pour ceux qui ne connaissent pas, écoutez Grand Corps Malade, qui parle de Saint-Denis, et c'est vraiment tout ça. C'est les marchés, c'est l'ambiance, c'est la culture, les différences. On a toutes les races. Enfin, je veux dire, tous les gens qui se rencontrent, on est là les uns les autres, et c'est le partage, quoi. C'est ça, pour moi, la Seine-Saint-Denis.
Un mélange de cultures, beaucoup.
Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, et puis de comment dire, d'affection, parce que j'y suis restée longtemps, j'y ai travaillé longtemps. Mes parents sont encore à Stain, d'ailleurs. Hein. Et bon, ça a changé, c'est plus le quartier qui a changé, ça a évolué, bien sûr, heureusement. Mais il y a beaucoup de souvenirs, et de très très bons souvenirs. Donc non, je ne me cache pas, je suis fière d'être du 9-3. Je l'ai toujours dit, et c'est vrai que ça me touche quand je vois que des choses négatives, et c'est pas ça. J'ai travaillé dans un milieu, par exemple sur un centre social avec des femmes, où on a monté un restaurant associatif avec des femmes du quartier à qui on donnait des cours justement de français, d'alphabétisation, et le midi, le matin, elles travaillaient. On a monté ce restaurant associatif, et ben ça fait plaisir de les faire sortir de leur quartier, leur apprendre la vie, d'être aussi, d'avoir une identité. Leur identité, elle venait d'Afrique du Nord, Afrique noire, enfin, tout était mélangé. Il y avait des personnes asiatiques, du Cameroun, enfin, je veux dire, du Maghreb, enfin, c'était extraordinaire. Et elles étaient tellement contentes de participer, de travailler, ce qui les changeait. On s'occupait que des enfants, sinon, hein. Donc ça, c'était extraordinaire. C'est un bon souvenir de la Seine-Saint-Denis, ça.
Alors, vous avez évoqué un petit peu votre parcours pro, on va y revenir. Et j'aimerais bien, Soumicha, d'abord qu'on s'intéresse un petit peu aux études de stylisme que vous avez entrepris, parce que je trouve ça assez fascinant. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre cette école de stylisme, et qu'est-ce que c'était, ça consistait en quoi exactement?
Alors, pourquoi une école de styliste? Parce qu'à la base, quand j'ai passé le bac, après, je voulais faire des études. Donc, je ne voulais pas aller à l'université tout de suite. Et puis, j'avais envie d'être un peu dans le spectacle. Ça m'attirait, les costumes, pas le cinéma, ce n'était pas mon truc, mais tout ce qui était un peu dans ce style-là, l'opéra, les costumes, et puis surtout, bah, quand on voit Chanel. Et je me suis inscrite dans une école. Il fallait quand même avoir un niveau. Donc, j'ai été retenue, et pendant 2 ans, j'ai fait des cours de styliste. Donc, des graphiques, des costumes, des, comment dire, je trouve plus les mots.
Des croquis.
Oui, voilà, des croquis, cherchais le mot. Des croquis, on travaille sur des croquis. Pendant 2 ans, on a eu cette école, et donc j'ai eu un diplôme de styliste, et qui m'a permis de travailler dans des grandes marques, c'est vrai, des grandes marques, des sous-marques, puisqu'on travaillait, c'était des prestataires qui travaillaient pour Chanel, Dior, et c'était vraiment une école de prestige, parce que c'est situé à Parc Monceau, et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens, donc, puisque on fait, à la suite de ces 2 ans, on fait un défilé qui est très important à la Sorbonne. Donc à l'époque, c'était monsieur Jacques Chirac avec Bernadette qui était venu, monsieur le président, enfin je crois qu'il était président, si je ne me trompe pas, ou s'il était ministre, je ne sais plus. Et il venait à ce défilé, et à ce défilé, on pouvait octroyer un nouveau travail. Donc on avait, après c'était les 2 ans, donc on avait le diplôme, et ensuite on avait des possibilités de trouver un poste. Et c'est comme ça que j'avais trouvé un poste aussi pour les costumes à l'opéra. Et oui, j'ai fait aussi des costumes à l'opéra pendant quelques années. Et ensuite, j'avais envie de me diriger. Alors, c'était dans les coulisses. Hein. On était dans les coulisses. On n'était pas. On était cachés. Hein. C'était ouais. Magnifique. On avait la liberté le soir d'aller visiter. C'était grandiose. Et c'est une autre ambiance. Ça n'a rien à voir avec l'animation, l'éducation. C'est un monde à part. C'est un monde à part. J'ai vu des gens, j'ai connu des grands couturiers, parce que bon, on les côtoyait à des cocktails. Des fois, on était invité, parce que quand on faisait un modèle, on était invité. Bon, vous étiez un peu comme la stagiaire, mais bon, c'était, on appelait ça des petites mains. Moi, j'étais petite main, parce qu'on commence par petite main, grande main, puis après, on arrive à faire le stylisme. Il y a plusieurs niveaux, hein. C'est comme la fonction publique, il y a plusieurs niveaux. Et voilà, donc pendant quelques temps, je suis restée pour les costumes de théâtre, et ensuite, j'avais envie de faire un peu, on appelle ça de la couture floue. Et j'ai travaillé pour un monsieur qui s'appelle Bernard Joly, qui avait une boutique et qui faisait aussi des costumes pour l'opéra et pour d'autres prestataires. Et là, je suis restée 2 ans. Et donc, j'ai appris la vie parce que cette boutique, elle se trouvait Gare du Nord. Et j'étais jeune. Donc, Gare du Nord, on allait ramener les costumes quand ils étaient prêts à l'opéra et à d'autres magasins et d'autres entreprises de l'époque. Et on traversait Gare du Nord et à des moments, je devais avoir 22, 23 ans. Hein, et il m'avait appris la vie, lui aussi. C'était quelqu'un qui était extraordinaire. Alors, Bernard, c'était un homosexuel. Et pour moi, tu sais, dans ma tête, c'était pas quelqu'un... Je connaissais pas du tout ce monde-là, si tu veux. Surtout dans ma famille, on parlait pas de ça. Et lui, il m'avait appris la vie, parce qu'on allait à Belleville, on allait dans les quartiers où il y avait des travestis. Et c'est vrai que ça m'est sorti un peu de mon cocon, tu vois. Et c'était quelqu'un que j'estimais beaucoup. Voilà, c'est vrai que lui, c'était la première fois que j'avais... Si tu veux, je veux venir par rapport à ça. C'est que c'est une identité. Et voilà, je reviens toujours à ma façon de... C'est important que la différence, elle soit... Et c'était quelqu'un qui était très, très connu et très important dans le quartier à Gare du Nord. Et après, j'ai arrêté, si tu veux, parce qu'à un moment donné, il avait plus besoin de moi, puisqu'il avait 2 salariés, plus moi, qui m'avait recruté juste après mon concours. Et à un moment donné, il a dû séparer de moi. Et donc, j'ai arrêté la couture, la haute couture au départ. Et ensuite, j'ai fait des petits boulots, si tu veux, d'intérim. Donc, je faisais les 3-8. J'ai commencé à faire que des boutonnières au 3-8. J'en avais jusque-là. Donc, j'ai dit, c'est pas un métier pour moi. Le problème de la haute couture, si on n'arrive pas à accéder tout de suite, si tu veux, avoir des plans, avoir des connaissances, il faut persévérer, mais il faut de la patience. Et moi, j'avais pas de patience.
Oui, c'est un milieu un petit peu fermé.
Oui, c'est un milieu fermé, il faut avoir des connaissances, il faut avoir... si tu fais un croquis et que tout le monde s'extase et que c'est le dernier truc qui fait le top, oui, tu vas être connu. Mais après, il y a tellement une ligne de conduite. Donc, tu dois passer par plusieurs caps. Et c'est vrai que moi, à cette époque-là, j'étais jeune, j'avais pas envie de ça. J'avais envie d'aventure. Bon, c'est vrai que c'était une aventure. Ce que j'ai connu avec Bernard Joly, quand j'ai travaillé avec lui, avec les costumes de théâtre, et quand on travaillait avec l'opéra, quand on allait travailler avec d'autres prestataires à l'époque, c'était magnifique. Mais c'était bien, c'était le cocon. Mais alors après, toute cette hiérarchie, toutes ces procédures, ça ne me convenait pas.
c'était quand même un monde complètement différent de votre enfance en Seine-Saint-Denis, non? C'est arrivé comme ça en haute couture.
Ah oui. Puis alors, c'est vrai qu'à l'époque, de toute façon, c'était mon nom de famille. Je m'appelle Soumicha Benayred. Donc c'est avec mon nom avec mes origines. C'est vrai que j'étais fière puisque j'ai accédé à des postes fabuleux et j'ai rencontré des gens fabuleux qui m'ont aidé, qui m'ont ouvert, qui m'ont appris beaucoup de choses. Je sais coudre, je faisais des vêtements à l'époque. Là, aujourd'hui, je ne couds plus parce que j'ai des problèmes aux articulations, mais je faisais des choses magnifiques. Les vêtements, je me les fabriquais. Il y avait vraiment... Ah oui, c'était fabuleux, fabuleux. J'ai assisté à des défilés, j'ai été à des soirées. Enfin, c'est du temps. Hein. Par contre, il faut bosser, hein. Il faut être patient. Hein. Parce qu'on faisait tout à la main, la haute couture. La couture, c'est vraiment et les finitions, les croquis, tout se faisait à la main. Ça, c'était il fallait être patient. Mais après, ma patience, j'en pouvais plus. Et c'est vrai que comme je n'ai pas trouvé quelque chose qui m'intéressait, qui ressemblait peut-être à ce que j'avais vécu avec Bernard, du coup, non, je me suis dit, les 3-8, c'est bon. Les boutonnières, j'en ai marre. Les ourlets, j'en ai marre. Et puis, du coup, j'ai changé. Et puis, entre-temps, j'ai connu l'animation.
Et alors, comment cette... parce que là, c'est quand même un changement encore de perspective radicale. Comment vous êtes retrouvée et comment vous êtes intéressée à l'animation, donc ?
Alors, l'animation, c'est des amis, en fait, qui me connaissaient, qui m'ont dit « Alors, Soumicha, tu fais quoi en ce moment ?»« Ben, je fais rien. Après mon école de styliste, j'ai envie de faire... » Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Donc, il me dit « Ben, écoute, il y a un poste d'animatrice à la ville de... » Alors, c'était à Paris, à l'époque, le premier poste que j'ai eu. Et c'était place vers la Bastille. Je me souviens toujours. Et j'ai découvert l'animation, comme ça, en laissant de loisirs. Alors, j'ai dit « C'est sympa, c'est bien, on rigole, on est avec des enfants. » Allez, pourquoi pas. Et mais en fait, je le faisais que le mercredi, en attendant de trouver autre chose. Donc, je faisais des petits boulots à côté. Et je continuais aussi le marché. Donc, du coup, c'était déjà dans l'animation avec le marché. Donc, je me suis retrouvée dans une autre animation. Et j'ai dit, allez, je vais persévérer. Donc, du coup, j'ai passé mon BAFA, mon BFD. Je suis devenue directrice de centre de loisirs l'année d'après, à 21 ans, 22 ans. Et je me suis dit, allez, hop, c'est bon. Donc, j'ai commencé l'écolo. Après, j'ai fait les classes de découverte, j'ai fait des séjours. On partait... les classes de découverte, c'était génial parce que c'était à l'époque un mois ou 15 jours. Là, maintenant, les séjours, c'est une semaine et on rentre à la maison. Nous, on vivait avec les enfants pendant un mois, quoi. Et on avait, on partait avec 50 gamins, quoi. Et ça, c'était extraordinaire. Ce milieu-là, il est extraordinaire. Le monde de l'éducation, de l'animation, c'est extraordinaire parce que c'est un milieu... on fait du relationnel, mais en même temps, c'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup de motivation parce que, bon, déjà, il faut travailler avec le public, quel que soit l'âge. Parce que moi, j'ai fait 3 mois, 77 ans. Moi. J'ai fait tous les âges. J'avais envie de voir tous les âges. Donc, et je me suis perfectionnée. Et après, j'ai vu qu'il y avait des diplômes. Je me suis dit, bon, en animation, c'est bien, mais c'est de l'associatif. Parce que je n'étais pas du tout encore dans la fonction publique. Hein. Je me suis dit, ouais, d'accord, les associations. Je travaillais avec les associations. J'ai travaillé dans le socioculturel, dans un centre social où on faisait aussi de la culture, des animations pour les jeunes, pour les plus jeune aussi, et ça me convenait, parce que c'était rafraîchissant. J'ai envie de parcourir et de voir tous ces âges, ça m'intéressait. J'avais envie, comment t'expliquer, de connaître toutes les problématiques, tu vois, de me dire, voilà, pour les 3-6 ans, il faut faire ça, et pour les 6-7 ans, ça, les ados, il faut faire ça. Donc, on partait comme ça, et à l'époque, j'ai eu cette chance, c'est que la réglementation, elle n'était pas aussi, pas sévère, c'est pas sévère. On pouvait faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, quand je partais avec des séjours avec des ados, on faisait un raid, on partait avec le sac à dos. Donc on faisait des campements comme ça, direct. Quand on arrivait dans un coin, on pouvait faire un feu. On allait laver la vaisselle dans la rivière, tu vois. Aujourd'hui, ça c'est impossible. Tu peux pas faire ça. Et du coup, je me disais, bon, c'est super, mais alors. Mes parents me disaient, mais c'est pas un métier, ça. C'est, tu joues avec les enfants, tu pars avec les jeunes, c'est des vacances et tout. Oh, ben, j'ai dit, pour l'instant, c'est une voie que je veux faire. Et puis, du coup, j'ai dit, c'est pas grave, je vais pouvoir... je vais voir, ça va ouvrir les horizons. Et du coup, après, j'ai vu qu'il y avait... parce que le BAFA, le BFD, tous ces, c'est des brevets, c'est pas des diplômes. Après, je me suis dit, bon, si je reste là-dedans, il faut quand même que je bouge et que je me trouve quand même des formations et des diplômes. Et puis, alors après, donc, j'avais travaillé plusieurs villes. Hein, donc, j'ai fait Aulnay-sous-Bois, Saumes, j'ai fait Bobigny, j'ai fait Pantin, j'étais médiatrice de rue. J'ai fait des quartiers très, très difficiles dans le 93, où j'ai toujours été acceptée. Hein, j'étais alors, la seule
fille. Juste médiatrice de rue, par exemple.
Bah, c'est animateur de rue aujourd'hui. Médiatrice, c'est le médiateur, celui qui fait le.
Si ça la ça consiste à quoi hein.
Alors, on était dans la rue, parce qu'on n'avait pas de local. Donc, à l'époque, c'était ça, dans le quartier. Là, c'est l'époque où j'étais à Pantin. Et en fait, on récupérait les jeunes qui étaient à l'extérieur. Après, on essayait de les amener au centre de quartier. Mais bon, ça pouvait faire une heure ou deux, prendre un café, parce qu'on avait une partie jeune où il y avait un accueil vraiment avec une salle de jeu, des choses comme ça. Et on était médiateur, ça s'appelait comme ça, médiateur de rue. Après, on essayait aussi de régler les conflits quand il y avait des problèmes dans la cité ou dans la résidence, parce que certaines fois, c'était dans les résidences. Donc, c'est un peu un métier de sécurité, on va dire, quelque part, entre guillemets. Oui, oui, j'ai fait ça.
De lien social.
Oui, plutôt de lien social. Ouais. C'était surtout ça, pour que ces jeunes ne soient pas aussi, si tu veux... mise à l'écart, parce qu'ils font partie de la ville, de la cité, mais bon, voilà, c'est des jeunes qui traînent, ils n'ont pas envie. Donc on réussissait aussi à les emmener vers le point information jeunesse, tu vois, pour qu'ils aient, voilà, un moment où s'ils avaient envie de revoir leur parcours, de les aider à faire une lettre de motif. D'ailleurs, j'avais travaillé aussi au point information jeunesse, et c'était rigolo, parce que dans la ville de Rueil, c'était en plein dans la cité. Et la cité, elle était ronde, et le pige était en plein milieu. Donc quand j'allumais les lumières du bureau, tout le quartier arrivait parce que c'était l'heure où j'avais allumé la lumière. Ils arrivaient tous au point information jeunesse. Et à l'époque, je te passe, parce qu'on avait au pige, il y avait on avait un Minitel. Nous, on avait pas un ordinateur, une horreur. Et on avait un Minitel, alors je te dis pas. Ils venaient toutes les après-midi, ils attendaient que ça, les jeunes, pour aller taper sur le Minitel. Bon, après, c'était pas pour faire des recherches. Hein. Ils allaient sur le Minitel rose. Alors bon, je me battais avec eux un peu, je les engueulais un petit peu, mais moi, c'était drôle. J'étais la seule fille du quartier. L'animation, c'est dur hein, dans les quartiers. Hein. On avait du mal hein, à recruter des animatrices. Mais bon, après, c'était un secteur qui me plaisait beaucoup. Et après, je me suis dit, il faut un temps pour tout. Les ados, c'est bien. Après, voilà, je suis revenue aux plus jeunes, parce que c'est vrai que c'est la tranche d'âge que j'aimais beaucoup. Hein. Les 6-15, c'était très bien. Quoi. Mais c'est une grande période où j'ai rencontré beaucoup de gens. Alors, quand tu parlais de lien social, ça, c'est... Dans l'animation, tu peux exploser le truc, parce que vraiment, les liens, t'en as avec les partenaires, le travail que t'as avec les institutionnels, tu vois. Je parlais du commissariat, de la police, mais on avait aussi... on travaillait avec le conseil départemental, on travaillait avec les associations qui étaient très présentes. Dans le 9-3, je parle du 9-3 parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et c'est important. Et vraiment, ils font du très bon boulot. Et c'est vrai qu'on pouvait monter plein de projets. On a monté des Aulnay-Plages, par exemple. Là, je vois de temps en temps, tu vois, je vois des trucs de Paris. Mais nous, l'idée, on l'avait déjà eu avec les pompiers. Alors, à Aulnay, quand arrivé, on avait fait tout un stade et on avait mis une plage pour les enfants qui ne partaient pas en vacances. On avait monté des trucs avec des attractions. Oh, c'était génial. Mais avec la police, les pompiers, tous les partenaires institutionnels venaient. Et ça, c'est une période de ma vie, je ne peux pas oublier. Et tu prenais du temps. Hein. Enfin, moi, j'y passais des fois mon week-end, hein, mais c'est vrai que cette notion de temps, tu ne l'as pas. Tu peux être un peu trop militante et passionnée, mais c'est vrai qu'à l'époque, dans l'animation, on ne comptait pas nos heures. Quand on faisait l'été, par exemple, on avait des projets sur l'été avec les enfants, parce que bon, c'est des quartiers un peu difficiles, on va dire entre guillemets, mais c'est pas difficile dans le fait que c'était des enfants ou des personnes qui pouvaient pas partir en vacances, donc ils avaient pas trop de loisirs. Donc alors quand arrivait l'été, on trouvait des idées assez folles. Alors un jour, on faisait plage, je passe à Aulnay-Plage, mais tous nos centres de loisirs, il y avait des thématiques. Alors c'était New York, où on arrivait dans le Maghreb, c'était le Maroc. Alors toute l'installation était faite de A à Z par les animateurs et l'équipe. Hein. Et c'était excellent. Donc, le matin, on accueillait avec une musique de... Alors, c'était pas Rachida, mais c'était, comment il s'appelle, Khaled, qui nous faisait l'entrée à l'accueil. Et puis, avec les enfants, tu vois, c'était multi... on partageait la culture. Et Et voilà, encore une fois, tu vois, je suis un peu passionnée là-dessus. Et c'est vrai qu'à travers ça, on partageait à d'autres enfants qui ne connaissaient pas, justement, c'est ça la peur de l'indifférence et que les gens ont, voilà, on ne va pas aller dans le 9-3, on ne va pas aller à Paris, on ne va pas aller ceci. C'est parce qu'on a peur et on ne sait pas. Et quand on a peur, et ben voilà, on réagit comme ça.
Vous l'aurez compris, la peur de l'inconnu ne fait visiblement pas partie de l'état d'esprit de Soumicha. Si ce que l'on vient d'entendre suffit pour le comprendre, elle le confirme en nous parlant de sa reprise d'études, entreprise pour asseoir ses connaissances et en acquérir de nouvelles dans le domaine de l'animation.
Non, d'abord, j'avais fait un BTEP. J'ai fait un brevet d'État d'éducation technicien, d'éducation populaire, un truc comme ça. C'est un brevet d'État qui concerne l'éducation populaire. Parce que c'était important que j'accède. Entre deux, j'ai fait aussi la licence. Parce que je me suis dit, bon, il faut que je sache des choses que je ne sais pas. Parce que c'est bien gentil, l'animation, mais il y a aussi la théorie qui doit être avec. Mais ça, je l'ai fait en cours du soir. Hein. J'ai pas... Oui, c'était balèze. J'étais un peu, à l'époque, j'avais bien tout touché. Bon, ça a été un peu dur, hein. J'ai traîné la deuxième année, mais je l'ai eu. Et après, il y a eu le BTEP. Alors, je ne sais plus si c'était au début ou à la fin, j'ai retrouvé le BTEP ou la licence. Oui, parce que pour moi, c'est important. Connaître les tenants et les aboutissants, c'est important. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas forcément. Hein. Et à l'université, c'était autre chose. Hein. C'est, voilà. Mais bon, j'y étais vraiment au cours du soir, donc c'était une autre épreuve. Mais bon, hein, il faut être persévérant. Moi, je dis que c'est vrai que je n'ai pas fait des grandes études tout de suite. Bon, après, il y a eu l'école styliste. Après, je suis revenue à l'animation. J'ai fait un BTEP. Et après, je suis revenue à la licence. Mais bon, c'est un parcours qui me... Enfin, c'est ce que j'aime, en fait. C'est qu'à la fois, je me dis, ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, c'est vrai que c'est dur. On peut aller dans un métier, avoir une voix. Et après, bah, changer, c'est la vie. Et il faut le faire. C'était une envie, en fait. J'ai fait tout ce que j'ai voulu, je l'ai fait, c'est vrai. J'ai un parcours et j'ai cette chance-là. C'est vrai que j'ai réussi. Mais c'est grâce aussi aux personnes que l'on rencontre. Et c'est vrai que dans mon parcours, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés depuis mon adolescence jusqu'à maintenant. Et ça, l'environnement, c'est beaucoup. L'environnement, c'est une richesse. Je parle des personnes qui ont été là, des moments présents, qui m'ont dit, pourquoi tu fais pas ça? Pour les licences, j'aurais peut-être pas pensé. Bon, styliste, ça, c'est moi qui avais trouvé ma voie. Mais voilà, c'est mon côté un peu artiste, un peu folle peut-être, des fois, parce que j'aime bien les choses. J'aime bien innover, j'aime bien, et pourquoi pas. Et puis, si je me dis, pourquoi pas, parce que les femmes, c'est pareil. On a des métiers. À la base, quand j'étais au collège, je voulais être mécanicienne. Et mon père m'avait dit, non, tu ne feras pas de la mécanique. Et j'ai dit, pourquoi pas? Je dis, pourquoi on ne pourrait pas faire des choses à un moment donné, arrêter et recommencer? La vie, elle ne s'arrête pas au premier métier, au premier parcours. Non, moi, c'est ça qui m'intéresse. J'aime ça. J'aime la nouveauté. Aujourd'hui, si j'ai envie de faire autre chose, je le ferai. Mais bon, c'est vrai, ça va demander plus de temps, parce que je vieillis quand même. Mais je le ferai, et avec le même enthousiasme. Et c'est vrai que les gens, quand je te disais que les gens qu'on rencontre, ben dans le professionnel, j'ai rencontré des gens fabuleux qui m'ont permis d'accéder à des postes, de faire des formations, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie des marchés. Ben moi, j'ai dit merci à Jean-Claude. Bon, il est décédé maintenant, mais c'est lui qui m'a appris à faire de l'animation au marché. Apprendre à crier, c'est pas facile, hein. À vendre, à sourire, à dire bonjour, à mettre un étalage. Et c'est vrai que c'était mon premier passage. Et ça, c'était formidable, quoi. C'était ma première animation de rue. Je faisais déjà du théâtre. Mais bon, c'est vrai. Et puis après, dans l'animation, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris le boulot. Et j'ai eu des équipes formidables. Quand je faisais mes colos, les animateurs, ils m'appelaient la fourmi. Parce que je courais partout. Mais parce que j'aime bien être partout, à tout moment. C'était mon surnom. Et puis de temps en temps... Et à chaque colo, il me rechantait la chanson. Il m'avait fait une chanson sur la fourmi. Mais voilà, c'est des moments que je ne peux pas oublier. De richesse, de partage et d'échange. Et ce lien social, oui, j'aime beaucoup.
Parmi les rencontres importantes évoquées par Soumicha, il y a celle de Pierre Brice, qu'elle rencontre lors d'une formation en 1994. Il sera son formateur pendant 6 mois avant de pouvoir prendre un café, respect des règles de déontologie oblige, de tomber amoureux et de se marier 3 mois après. C'est ensemble que Soumicha et Pierre Brice arrivent à Mont-de-Marsan en 2011 et c'est maintenant qu'elle nous parle d'ici.
Alors pour moi, Mont-de-Marsan, c'est un vrai coup de cœur. En fait, je suis arrivée suite à une mutation. On a eu marre de la région parisienne, on n'en pouvait plus avec mon mari. Et on s'est dit, il faut qu'on parte. Donc, au départ, on a regardé la carte de France. On s'est dit, bon, peu importe, pas trop froid, pas trop chaud, mais en fait, on n'avait pas vraiment de ville choisie. Et j'ai répondu à une annonce, et cette annonce était Mont-de-Marsan. Et les Landes et Mont-de-Marsan, surtout, pour moi, c'est toute une histoire, c'est le terroir. Et c'est les traditions, les gens, la vie associative, ça m'émeut. Je ne sais pas pourquoi, c'est un vrai coup de foudre. Il faut vivre pour connaître Mont-de-Marsan et les Montois. Et il y a beaucoup de choses à voir. Et les Landes, c'est pareil. Aux alentours, les villes, les petits villages. C'est intéressant entre la culture, les agriculteurs, le terroir, la palombière. Enfin, il y a tellement de choses. Mais c'est vrai que je trouve que tous les jours, il faut faire... Moi, j'aime bien me balader dans les autres communes. Je veux voir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Et la vie des gens. C'est toujours le lien, je reviens toujours au lien social, mais c'est important. Et le savoir qu'ils peuvent partager. C'est comme ça qu'on fait vivre les traditions. Des fois, je me dis, j'ai l'impression... Alors, les personnes qui sont montoises et que je connais n'investissent pas assez leur terroir, leur ville. Elle est importante. On me dit toujours, mais il n'y a jamais rien qui se passe à Mont-de-Marsan. Je dis, attendez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis c'est vrai que quand on est arrivé, moi, c'est la première chose que j'avais envie de découvrir. C'était les lieux, les gens, la vie, tout simplement. Et franchement, je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas parce qu'il y a toujours quelque chose à voir. Le matin, quand tu te réveilles, tu vois le début du lever du soleil, mais tu as des images magnifiques. Enfin, je veux dire, il y a des choses qu'on... Voilà, c'est pas la région parisienne, ça n'a rien à voir. La région parisienne, c'est un parcours de ma vie, mais qui reste aussi dans mon cœur. Mais ici, c'est une qualité de vie. Quand tu vas au marché, je veux dire, moi, les commerçants, on les connaît tous maintenant, c'est comme des potes. Et ils t'oublieront pas. Et puis, on s'appelle par nos prénoms. Et quand tu vas boire un café, bon, là, il y a le Covid, on peut pas aller boire un café. Mais voilà, on s'appelle tous par nos prénoms, on se côtoie... C'est une amitié qui s'arrête pas, je veux dire, qui continue. Et à travers les gens, comment te dire, tu les découvres, tous les jours tu les découvres, et c'est naturel, voilà. Il n'y a pas de chichi, je trouve ça exceptionnel. C'est vrai, les Landes, Mont-de-Marsan, entre autres, pour moi, c'est un coup de foot, je suis montoise de cœur. Voilà, j'ai l'impression d'y vivre depuis des années. Ça fait 10 ans bientôt, mais... C'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. Mais alors après, c'est pareil. Quand je suis arrivée, on me dit, mais tu connais beaucoup de monde. Je lui dis, mais je connais beaucoup de monde, mais si tu ne vas pas vers les gens... Parce qu'ils me disent, les Montois, ils ne sont pas faciles. Alors je lui dis, mais si vous n'allez pas vers les gens ne vont pas venir vers vous. Mais c'est vrai que moi, notre premier lien, ça a été Fred de Banks. Parce que j'habitais au-dessus du magasin. Et Fred, ça a été le premier de la chaîne à qui j'ai rencontré. Ben, Fred, il y a eu Bébert, Aurélien, Laurent. Et puis après, c'est toute une chaîne qui continue. Et puis on en rencontre plus de gens. Puis Pierre, maintenant, il s'est investi aussi sur la ville. Il fait beaucoup de choses. Et du coup, lui, il a encore des gens. Donc on se voit à des fêtes, à des choses comme ça. Tout ce qui se passe dans la ville, avec toutes les manifestations. Et c'est génial. Enfin, moi, j'adore. Je suis 100% montoise.
Alors, on va faire une petite pause musicale. Michel, est-ce que vous pouvez nous annoncer votre choix?
Alors, c'est « Je suis » et c'est Big Flo et Oli. Je trouve cette chanson très, très émouvante. Et pour moi, encore une fois, c'est l'identité de chacun. Nous sommes, je suis, nous sommes, on est tous quelqu'un. Et on a tous notre identité. Je trouve ça fabuleux.
Je suis enfermé à l'étroit dans ma cellule. Tous les jours le même café, mais c'est le temps qui est soluble. Ces bonnes actions que l'on regrette, ces erreurs que l'on refait. Au parloir, je parle autant à mon fils qu'à mon reflet. Je suis gelé, j'enchaîne les vers et les hivers. Pour se rassurer, les passants doivent tous penser que l'on hiberne. Bercé par le son des pas et le bruit des pièces dans les poches. Entre ce type et mon chien, je me demande de qui je suis le plus proche. Je suis riche, ils veulent me faire croire que c'est une honte. Comme si j'étais responsable coupable de toute la misère du monde. Moi je dois rien à personne, même si l'argent vient à manquer. Ils veulent tous goûter aux fruits de l'arbre que j'ai planté. Je suis malade, mais je préfère dire futur soigné. Mes pupilles fixent l'aiguille de la montre qui brille sur mon poignet. À l'étroit dans mon corps, je regarde le monde par le trou de la serrure. Les gens diront que je n'ai fait qu'agrandir celui de la sécu. Je suis croyant, on me reproche souvent de l'être. On me reproche ma barbe, pourtant j'ai la même que Jean Jaurès. On me compare à des barbares auxquels je n'ai jamais cru. Les mosquées sont trop petites, alors parfois je prie dans la rue. Je suis un peu perdu, mes petits poumons se remplissent d'air. Nouveau venu sur terre, mes premières larmes déclenchent celles de mon père. Une chance auprès de ma famille, je me sens à ma place. Mais je n'oublie pas que j'aurais pu naître dans la chambre d'en face. Je suis seul au fond d'un couloir, on demande pas mon avis. J'ai pris de l'âge, donc voilà, j'ai bien plus de rides que d'amis. J'aimerais partager mes erreurs, vous faire part de mes doutes. Parfois je me parle à moi-même pour être sûr que quelqu'un m'écoute. Je suis épuisé, mais plus pour longtemps, j'en suis sûr. Les sonneries téléphones, la pression ont élargi mes blessures. Je me souviens pas de la date de mon dernier fou rire. Je suis un homme, bientôt je serai un souvenir. Je suis enfin là, cette terre n'est plus un mirage. Je suis arrivé par bateau, mais surtout par miracle. Une nouvelle vie m'attend ici, bien plus calme et plus stable. Ce matin j'ai écrit tout va bien au dos de la carte postale. Je suis fier, mais comment vous décrire tout ce que je ressens? Quand je marche en ville, de moins en moins de gens me ressemblent dans l'ascenseur. Je parle même plus la langue de ma voisine. À force de planter des arbres, y'aura plus de place pour nos racines. Je suis fatigué, mal au dos et mal aux reins. Les rides sur mon visage me rappellent les montagnes de là où je viens. On m'a menti, et c'est trop tard que je l'ai compris. On dit que ce pays n'est pas le mien, alors que c'est moi qui l'ai construit. Je suis assis, et le destin a fait que je me relèverai jamais. Dans cet océan, j'ai l'impression d'avoir toujours ramé. Un casse-tête pour monter dans le bus, aller au taf, passer leur porte. Souvent les gens me regardent et me répondent que c'est pas de leur faute. Je suis heureux, jeune diplômé, esprit bête. J'ai étonné ceux qui rêvaient de me voir abandonné. Ma famille est loin d'ici, j'espère que là-bas ils sont fiers. Je viens de gagner le combat qu'avait commencé ma mère. Je suis confiante, je regarde ma classe un peu trop pleine pour moi. Et je leur tiendrai la main jusqu'à ce que la réussite leur ouvre les bras. J'ai compris que parfois les adultes sont paumés, parce que les plus grandes leçons c'est eux qui me les ont données. Je suis énervé, dans mon quartier on s'ennuie loin de la ville. On écrit, on prie, on crie et j'ai des amis qui deal. Mon grand frère est au chômage, mon pote se fait 5000 par mois. Au collège c'est le bordel, bientôt je devrais faire un choix. Je suis loin, ce qui se passe chez moi n'intéresse pas grand monde. Pour les autres on vit un rêve, pourtant souvent on tourne en rond. Tout est cher, avec le continent y'a comme une latence. La plage, les palmiers, mais moi je suis pas en vacances. Je suis discrète, mon père m'a dit de ne pas faire de vagues. Ma religion un phare guide dans mes pas depuis que j'ai mis les voiles. C'est drôle qu'il me surveille et qu'il fasse tout pour me donner une leçon en m'empêchant d'aller en cours. Je suis inquiet envers ma foi, beaucoup de regards hautains. Je reçois des leçons par des types qui ne font rien pour leur prochain, l'humanité n'a plus de cœur. Je vois le monde qui tourne et qui change. Et je suis triste de voir qu'il y a de moins en moins de gens le dimanche. Je suis amoureux, et je vois par qui ça regarde. À part moi et celui avec qui je partage mon lit le soir. Je l'aime, on se slalome entre les insultes et les blagues. Dire qu'il y a peu de temps je n'avais pas le droit de lui offrir une bague. Je suis oublié, mes fins de mois se font sur le fil. C'est devenu rare d'aller au resto ou d'aller voir un film. Je suis qu'un chiffre, qu'un vote, qu'une statistique, un point de plus de la foule. Moi je suis juste né ici, et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Je suis un rendez-vous, un hasard, un match de foot, un mariage, une manif, un annie, une accolade, une bagarre, une scène de crime, un jugement, un gosse qui rit, une erreur, une montagne enneigée. Je suis la pointe de la plume d'un odeur. Je suis les pleurs d'un départ, je suis la chaleur des bars. Je suis une saveur 5 étoiles ou bien le gras d'un kebab. Les flemmards, les couches tard, les leftos, les râleurs, les regards dans le métro. Un oncle raciste, un concert vide, la crie, la déprime qui rose à l'étau. Je suis l'excellence, l'élégance ou l'espérance d'une naissance. Ces campagnes dans le silence, ces grandes villes immenses, denses. Je suis un peu de moi et beaucoup des autres quand j'y pense. Je suis la France.
Vous écoutez Les Femmes de chez moi sur les ondes ou les internets de Radio MDM, épisode 28, Soumicha Lebrun. Soumicha, dans la deuxième partie de cette émission, on s'intéresse à trois souvenirs. Trois souvenirs qui ont fait de vous celle que vous êtes aujourd'hui. Alors, quel est le premier souvenir que vous avez choisi de partager avec nous?
Alors, mon premier souvenir, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était quelqu'un d'exceptionnel, on va dire, comme toutes les grand-mères, mais elle avait quand même une particularité. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui nous racontait des histoires quand on était enfant. Alors, ma grand-mère, elle habitait l'Algérie, bien sûr, elle était à Tlemcen, mais elle venait tous les ans nous voir pour faire son pèlerinage à la Mecque. Alors, c'était une petite bonne femme, toute mince, toute fine, qui était toujours habillée en blanc, puisqu'après le pèlerinage, on appelle ça Hajar, ça s'appelle comme ça, si je me souviens, elle était toujours habillée en blanc et toute menue. Bon, elle n'avait pas de tchador. Hein. Et elle venait en France, elle adorait venir nous voir à la maison. Et pendant le soir, juste avant de nous endormir, elle nous racontait des histoires. Et quand on allait en vacances, c'était pareil, c'était le lien. Alors ma grand-mère, c'était vraiment quelqu'un de... À la limite, elle avait pris un peu la place de ma mère sur cette partie-là. Ce côté affectif de nous raconter la culture, de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle a entrepris. Hein. Elle était vraiment... elle était déjà, elle avait déjà anticipé le monde, parce que c'est quelqu'un qui nous disait tout le temps, il faut travailler à l'école, il faut que vous fassiez des études, c'est important. Elle était, surtout pour les femmes, parce que bon, faut pas se cacher, hein, quand on est dans un milieu, on va dire, où les parents, et surtout d'origine algérienne, hein, mes parents et mes grands-parents, c'est quand même le père qui décidait tout, hein, ça, je peux pas le cacher, hein. Et alors, ces moments-là, c'est vrai que c'était les plus beaux de ma vie, parce que ma grand-mère, elle nous a raconté. Alors, elle commençait ses histoires toujours comme ça. Ça commençait, elle disait « Maken, maken, wahed saltal ». Alors, en français, ça veut dire « Il était une fois un roi ». Et ensuite, elle racontait les choses de la vie. Donc, un jour, elle nous raconte « Il était une fois ». C'est une jeune fille qui est dans sa maison, il y a beaucoup de bruit dans la maison, il y a beaucoup de gens, il y a une fête dans cette maison.
C'est un mariage qui se met en place autour d'elle. Ça s'anime, ça se bouscule dans la maison, ça s'organise. Du haut de ses 13 ans, on lui demande de préparer le thé. Et quand elle demande finalement « qui se marie ?», la réponse est détonnante et inattendue. « C'est toi », lui explique-t-on. Et c'est ainsi qu'elle a rencontré son mari, le grand-père de Soumicha.
Donc ma grand-mère, elle a été mariée, elle avait l'âge de 13 ans. Donc pour moi, ça a été un moment... Quand elle nous a raconté cette histoire, c'était très émouvant, parce que le jour de... Pourtant, sa famille, enfin mes grands-parents, étaient très cultivés. C'était des gens assez aisés. Et pourtant, sa mère avait décidé qu'elle serait mariée quand même à 13 ans. Donc quand elle nous a raconté cette histoire, je n'y croyais pas au départ, parce que pour nous, elle nous racontait tellement d'histoires sur la vie, donc des fois c'était ou vrai ou faux, mais et cette histoire est vraie. On l'a mariée à 13 ans, et le jour de son mariage, elle a fait le thé à tout le monde. Et le soir, et ben, elle est retournée avec son mari, puisqu'après, il y a eu les 3 jours où il y a eu la fête et tout ça. Mais on l'a mariée à 13 ans. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a touchée, parce que je me dis quand même, à l'époque, oui, ça se faisait, c'est sûr. Bon, ça existe encore hein, en Algérie. Hein, ils se marient peut-être pas à 13 ans, mais peut-être un peu plus tard, et quoique, je ne sais pas. Mais c'est décidé encore du parcours d'une femme et des uns, des autres. Et c'est vrai que ça, c'est dur. C'est vrai qu'elle l'a bien vécu, puisque du coup, elle était très heureuse avec mon grand-père. Hein. Ils ont vécu ensemble longtemps. Et c'est elle qui tenait le cordon de la bourse, parce que c'est elle qui s'occupait du budget, de la maison. Elle avait du caractère. C'était une femme qui était militante. Et c'est vrai que ce souvenir, quand elle nous a dit qu'elle se mariait à 13 ans, elle nous avait toujours dit, surtout, prenez votre temps pour votre mariage. Prenez le temps de choisir votre mari, aimez la vie, et ça, c'est ma grand-mère. Et c'est vrai que c'est un beau souvenir, parce que je me dis, après tout ce qu'elle a traversé, elle a bien vécu, hein. Elle venait en France, pour elle, la France était magnifique, c'était des vacances, on allait faire les courses, on apprenait dans les parcs, et vraiment, elle était ravie, elle aimait la France, elle aimait nous venir, on aurait dit une petite fille qui venait en douce, parce que c'est vrai qu'elle était... Elle était admirable. Elle avait des idées qui étaient, je veux dire, en avance sur la femme, la vie des femmes, être autonome, faire ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est important. Et ça, je peux pas l'oublier, quoi. Voilà.
C'est incroyable comme.
Tu te rends compte ? J'arrivais pas à dire avant-gardiste. C'est ça que j'ai cherché. Ah non, elle est terrible. C'est ma grand-mère. Ça a été. Et en fait, si tu veux, quand j'étais petite, on l'appelait moi. Imma, comme on entend dans les chansons. Imma, ça veut dire maman. Et en fait, ma mère, mes parents, je les appelais par leurs prénoms. Quand on était petits, on les appelait par les prénoms. C'était comme ça, parce qu'un jour, quand on avait 3-4 ans, on avait beaucoup de gens dans la maison, et mes parents, les appelaient Ali, Théma. Ma mère s'appelle Fatima, mais son surnom, c'est Théma. Et on les a toujours appelés par leurs prénoms. Et ma grand-mère, je l'appelais Imma. Donc c'était le nom de ma mère, en fait. Elle a pris un peu la place de ma mère, si tu veux, sur une partie de notre vie, de ma vie, quoi. Et on était très proches. C'était extraordinaire. Ça. Et c'est vrai que, pour moi, elle est encore là, tu vois. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Elle fait partie de mon identité, de ma vie, parce qu'elle nous a donné beaucoup de choses. Elle était présente vraiment, vraiment pour nous construire, quoi.
On reste en famille, Soumicha, pour le deuxième souvenir que vous avez choisi d'évoquer avec nous.
Quand mes parents sont venus en France, du coup, ils sont arrivés en Seine-Saint-Denis, et ma mère ne savait ni lire ni écrire. Et alors, c'est une petite anecdote que je vais vous dire, qu'il faut garder secret quand même si elle le sait, et on en rigole maintenant, c'est qu'elle nous faisait nous faire les devoirs le soir, donc, et elle nous faisait réciter les poésies. Ça, c'était son dada. Il fallait absolument que pour les devoirs, la poésie, c'était important, et elle nous faisait réciter les poésies, les calculs de maths, et alors, ce qui nous faisait rire, nous, surtout, donc elle prenait le cahier de poésie. Alors, on s'asseyait devant elle, hein, parce qu'il fallait, c'était officiel, enfin, c'était carré, il fallait se mettre, voilà, en face à face. Elle prenait le cahier de poésie et on partait, on récitait. Donc, à un moment donné, elle s'arrête et elle nous dit « Non, non, là, tu t'es trompée. » « Bon, d'accord, je me suis trompée, ok, reprends. » Donc, on reprenait la poésie et ça durait un moment et... Au bout du compte, on ne rigolait pas parce qu'elle tenait le cahier à l'envers. Donc, et pour ne pas la heurter, on ne disait rien. Et c'est vrai qu'elle ne savait pas ni lire ni écrire. Alors je ne sais pas comment elle faisait, mais elle arrivait à chaque fois que l'on se trompait. Alors est-ce que c'était le nom, le ton de la voix? Est-ce que c'était un déclic, un repère qu'elle avait vu sur le visage ou un stress qu'on avait? Elle arrêtait tout. Elle dit non, tu l'as mal lu. Donc... Et moi, ce souvenir, je trouve ça extraordinaire. Parce que c'est vrai qu'après, au fur et à mesure du temps, on lui a appris à écrire. Au fur et à mesure, nous. Dès qu'on a appris des choses, on lui faisait recopier. Bon, elle parle très bien le français, mais c'est vrai que l'écriture, ça a été difficile pour elle. Donc, et voilà, ce souvenir, je l'ai et je le garderai toujours. Aujourd'hui, on en rigole parce qu'elle était fière quand même. On n'allait pas lui dire « Maman, t'as pris le cahier à l'envers, c'est pas bon, la reprends-toi ». Non, aujourd'hui, on en rigole. Et ça reste une étape de ma vie, ça, voilà. Ça, c'est fabuleux. Je veux dire, moi, j'ai eu des parents, moi, mon père n'était pas très présent parce qu'il était dans l'import-export aussi. Bon, il avait fait une carrière militaire en Algérie, mais quand il est arrivé ici, après, il était chauffeur routier. Et ma mère s'est retrouvée dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Donc après, quand il y a eu l'école, quand même, il fallait bien s'occuper des enfants et de l'école. Et c'est vrai que les devoirs, c'était fabuleux. Les devoirs, franchement, c'est un très bon souvenir. Je trouve ça... je ne sais pas comment expliquer, parce que même maintenant, je n'arrive pas à comprendre... la subtilité, comment elle arrivait à trouver qu'on mentait ou qu'on n'avait pas appris la leçon. Hein. Mais c'était un moment institutionnel qu'il ne fallait pas louper. Taylor, 6 heures, devoir, allez, poésie, maths, elle faisait le calcul. Et elle reprenait à la baguette. Donc c'était fabuleux, voilà. Ma mère, c'est une extraordinaire institutrice.
Pour le troisième souvenir, nous allons revenir au domaine de prédilection de Soumicha, à savoir l'éducation et l'animation, à travers cette fois-ci le prisme de la politique. Quant à la suite de leur mariage, Soumicha et Pierre Brice s'installent à Chennevières. C'est sa rencontre avec un certain Jean-Pierre qui la conduira à son poste de quatrième adjointe. Mais il a d'abord fallu faire campagne.
On s'est lancé, et avec plusieurs amis là, du coup, du quartier, et on a commencé à monter notre équipe. Et honnêtement, au départ, nous, on voulait travailler sur l'éco-citoyenneté, l'éco-quartier, monter un éco-quartier, trouver des solutions pour monter des projets, avoir une crèche. Voilà, on était parti sur un truc. On a fait du boitage, du tractage, je ne connaissais pas. Ah oui, ça, la ville, on l'a connue après, de tous les points de la commune, on les connaissait par cœur. On a fait des réunions publiques, on a monté notre projet, et puis, bon, en sachant que nous, on choisissait Jean-Pierre comme futur maire. Hein. Et puis, on s'est lancé là-dedans. Et voici le premier tour. C'était le 9 mars de 2008. Et puis, bon, je te cache pas qu'on a, entre le boitage, le tractage et les réunions publiques, parce qu'on en a fait, hein, ça c'était tout le soir, après mes week-ends, ils étaient... voilà, et j'avais besoin d'en faire quelque chose, et ben, j'avais trouvé ma voie, puisque bon, Pierre n'était pas souvent présent. Et bien, du coup, on s'est lancé, et nous voilà partis, et le premier tour arrive. Et on passe au premier tour, puisqu'on était trois, il y avait le maire sortant, une autre liste politique, c'était socialiste, la liste de Jean-Pierre, la nôtre, plus les écolos, on devait être 4 ou 5, hein, je me souviens pas, je crois qu'on a dû faire 15%, un truc comme ça, et on est passé pour le deuxième tour. Et alors, donc là, du coup, parce que le monde politique, c'était pas vraiment mon truc, hein, mais du coup, alors Jean-Pierre, sur cette partie-là, il se l'est fait, parce que moi, je voulais pas du tout y participer. Donc, on a eu des avances des autres partis pour se rallier, pour pouvoir passer au deuxième tour. Et du coup, on s'est allié avec le Parti Socialiste. Et le jour arrivé du deuxième tour... Alors moi, j'y croyais vraiment. Hein. Honnêtement, j'y croyais. Parce que mes amis, à un moment donné, parce qu'il y a eu des négociations, tout le monde voulait qu'on se mette avec eux. Alors là, tout ça, moi j'ai dit, de toute façon, moi j'ai des valeurs. Maintenant, si ça correspond à nos valeurs, je reste. Et si ça ne correspond pas à mes valeurs, je ne reste pas. Vous pouvez vous allier avec qui vous voulez. Moi, je ne veux pas. J'ai des idées, je les garde. Après, si on reste dans notre optique de faire ce qu'on a dit avec mon équipe, c'était nickel. Donc on est parti. Bon, on s'est retrouvé avec les socialistes. Et du coup, on s'est lancé. Et au deuxième tour, on est passé, on a été élu. Alors ce deuxième tour, ça c'était, je me souviens, c'était au théâtre. Ils avaient mis les résultats et tout, puis alors tout le monde était comme ça, angoissé et tout. Puis moi j'avais dit à tous mes potes, tous ceux qui étaient sur la liste, c'est bon, on va l'avoir, je suis sûre qu'on va passer, on va gagner. Et on a gagné. Et ça, ce moment, c'était fabuleux. Le regard des uns et des autres, cette joie, ce cœur qui bat, c'était fabuleux. Ça, c'est une... Et être, tu vois, ça, c'est citoyen de la République pour moi. C'est une autre étape, tu vois, on parle de lien social, mais pour moi, c'est encore au-dessus. Ce moment, il a été fabuleux. On a été choisis par les citoyens. Et après, il y a l'élection du maire et des élus, mais ça, le premier conseil municipal, ça, c'est important aussi. Mais cette écharpe aussi, le moment où tu mets l'écharpe, c'est des émotions que tu as toute ta vie. Alors ça, ma mère, elle est fière de ça, je ne peux pas savoir. Et alors, le premier mariage. Oh, alors moi, j'étais élue, j'étais quatrième. Ouais, quatrième. J'étais chargée de l'enseignement de l'enfance et de la petite enfance. J'avais vraiment le plus gros paquet, la plus grosse délégation. J'avais un package, mais non, la plus grosse des délégations. Bon, parce que déjà, qu'il y a eu des accords avec le maire socialiste, puisque Jean-Pierre est passé premier adjoint, et personne ne voulait prendre cette partie-là. Puis moi, comme j'étais fonctionnaire et que c'était mon domaine, ils m'ont dit, allez, voilà, mais moi, je pensais avoir juste l'enseignement. Et donc, j'ai eu l'enseignement, l'enfance et la petite enfance, le gros truc. Et puis mes amis, ils ont été chargés. Chacun a eu des missions aussi au sein du conseil après. Et alors du coup, donc maire adjoint, donc chargé de faire aussi les mariages. Et mon premier mariage. Alors là, mon premier mariage. Comment j'étais tellement stressée, mais c'était tellement beau. Alors en plus, c'était drôle parce que c'est premier mariage, mon jour de mon anniversaire. Et j'avais un couple de jeunes qui venaient se marier, c'était tellement émouvant. En plus, bon, je me rappelle parce qu'ils avaient, ils avaient perdu lui comme elle, ils n'avaient pas leurs parents, donc ils étaient accompagnés. C'était une intense d'émotion ce mariage. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est vrai que c'est fabuleux parce que là, c'est un autre regard, les gens qui sont dans la salle et qui vous regardent autrement. Mais on est quand même officier. À un moment donné, c'est Je trouve que c'est... On ne peut pas le faire, quoi. C'est quand même une responsabilité. On marie des gens, c'est leur bonheur. Enfin, tu vois, c'est le reste derrière qui te dit ça va aller tracer. Oh, j'étais mariée par Lebrun, mais c'est raide. Enfin, on ne sait jamais, je vais garder mes deux noms, là. Et c'est beau. Et du coup... Ensuite, le maire, il m'avait dit, tu feras tous les mariages. Bon, pas de souci, je fais tous les mariages. Mais ça, ça a changé ma vie, quand même, il faut le dire. C'est un autre... Alors moi, j'avais gardé... Alors j'allais... J'habitais près du RER, donc je prenais le bus. Je prenais les transports comme d'habitude. Hein. Mais dans le regard des gens, ça change tout. Ça change tout. En tout cas, moi, j'ai essayé de rester moi-même, tel que je suis actuellement. J'ai pas changé mon mode de fonctionnement. Alors, on avait des permanences tous les samedis. Hein. Nous, tous les samedis, on recevait les gens. Et quand je recevais les gens, parce que bon, j'avais la petite enfance, il n'y avait pas de place en crèche. Et donc, j'avais des gens qui venaient te voir, qui te demandaient d'avoir une place, de trouver un boulot. C'est pas facile, c'était de l'émotion aussi. Alors, on avait beau leur expliquer qu'on n'avait pas de baguette magique, qu'on allait voir les choses, qu'on arrivait, que c'était pas facile. Mais cette partie-là, c'est encore un autre domaine. Là, quand t'es en face à face avec les citoyens, et que t'as pas forcément, parce que c'était pas une ville qui avait beaucoup de moyens, bien sûr, puisque du coup, puisqu'il y avait pas eu grand chose de fait, hein, avant l'ancien maire. Donc, nous, on arrivait, on a pris le mandat, mais voilà, on n'avait pas forcément trop de budget. On a essayé d'améliorer des choses, mais c'était pas évident. Mais le regard des gens, à Chennevières, c'était drôle, il n'y avait pas de police municipale. Donc, on avait la police nationale. Alors, moi, quand j'allais chercher mon pain, souvent, ils étaient dans la rue et ils me saluaient. Bonjour, madame le maire. Parce que maire adjoint, il disait maire aussi. Donc, moi, j'étais toute retournée. Bonjour, madame le maire. Bonjour. Mais je n'avais pas l'habitude de ça. Alors, t'imagines, tu es dehors, t'as la police nationale au garde à vous.
Quand soudain, après un recours déposé par le maire sortant pour un non-présent sur deux listes, les élections ont été invalidées.
Donc il y a eu un recours au bout de 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça, et on a annulé les élections. Et du coup, voilà, ça s'est arrêté là, j'ai fait un demi-mandat. Mais bon, c'était passionnant, honnêtement, c'était passionnant. C'est un autre monde, ça te demande beaucoup de temps, beaucoup de pression, et vraiment, c'était une expérience à vivre. À refaire, je ne sais pas. Je verrai quand je serai peut-être à la retraite, je ne sais pas. Mais vraiment, et puis c'est surtout le regard, ce que j'en retire maintenant, c'est ce regard des gens qui sont face à toi et qui pensent que tu vas pouvoir élucider tous leurs malheurs, tous leurs problèmes, c'est stressant et à la fois, bon, tu te dis, bon, je vais essayer, tu vas trouver des solutions, mais tu sais très bien que tu ne peux pas répondre à tout. Et ça, c'est... C'était pas facile, mais c'était une aventure exceptionnelle, parce que vraiment, si je l'ai faite, c'est parce que je me suis retrouvée avec des personnes qui avaient envie, qui avaient la même motivation, c'est surtout ça, et pour des objectifs communs, quoi. Pour le quartier, pour les citoyens, pour le mieux vivre et pour le vivre ensemble. Voilà.
Pour finir cet épisode, j'aimerais, Soumicha, que vous me donniez votre regard sur ce chemin parcouru, sur ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Comment vous regardez cette expérience, tout ce que vous avez, ce qui vous a conduit finalement jusqu'à Mont-de-Marsan ?
Alors, regarde. Il y en a eu des choses. Non, je suis, comme dirait ma mère, il faut être fier de soi. Donc je suis fière de mon parcours. Merci maman, merci ma grand-mère aussi. Parce que sans eux, je ne serais pas ce que je suis. Hein, parce qu'on se réalise, mais on grandit. Mais je reviens toujours au départ de ce que j'ai dit. C'est aussi avec les gens qui nous entourent. Et puis aussi avec mon mari, puisqu'il était présent à partir de 95 et il m'a soutenue dans toutes mes démarches. C'est vrai que quand je parlais de politique, on ne se voyait plus à un moment donné, hein, donc du matin jusqu'au soir. Et c'est de là aussi, à un moment donné, quand le mandat s'est terminé, qu'on s'est dit maintenant stop la région parisienne. On veut une qualité de vie, on veut voir autre chose, boulot, métro, dodo. On n'avait pas le temps de sortir, de vivre vraiment. Et j'ai eu cette opportunité de répondre à cette annonce et j'ai eu ce poste à Mont-de-Marsan. Mais c'est grâce à ça aussi. C'est toute une aventure en fait. Mais mon regard sur mon parcours, je trouve que il est riche. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais. Je referais la même chose, mais même objectifs, sans avoir objectif. C'était beaucoup de passion, on va dire. Et j'ai rencontré tellement de monde dans ma vie, honnêtement, et sans ce lien social, je ne sais pas, je ne pourrais pas. peut-être pas vivre, moi. Je ne suis pas faite pour rester sans voir des gens, discuter avec des gens, écouter les gens, être présente, les aider. Quel que soit, des fois, c'est juste de l'écoute. Et c'est vrai, si c'est à refaire, je referai la même chose. Puis voilà, mais si j'ai d'autres envies, je les ferai aussi. C'est pas terminé. Et pour la retraite, j'ai envie de faire encore plein de choses. J'ai plein d'idées. Et c'est vrai que le bénévolat me touche beaucoup. Ça, c'est beaucoup aussi. Et, mais c'est un parcours, un regard, on va dire, passionné. J'ai du mal beaucoup de parler de moi-même, en fait. Je suis très... on dirait pas comme ça. Je suis plus réservée sur mon parcours. Mais j'en suis fière, ouais, c'est vrai. J'en suis fière.
Merci beaucoup, Soumichat Lebrun.
Mais de rien, avec plaisir.
Vous venez d'écouter le 28e épisode des Femmes de chez moi. Merci à Nico, à la technique et au montage. Merci à Soumichat et Pierre Brice pour leur accueil. Mille merci à Soumichat pour l'histoire qu'elle nous a confiée. Merci à vous pour votre écoute fidèle et attentive. J'attends comme d'habitude impatiemment vos retours sur les réseaux sociaux des Femmes de chez moi ou par mail.
Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une guerre entre les hommes et les femmes.
We want to end gender inequality.
J'ai l'impression tout de même qu'elles sont moins résignées qu'elles ne l'étaient auparavant.
And to do this.
Métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce serait un métier qu'une femme ne peut pas faire. Il y en a vraiment peu.
We need everyone involved.
À bientôt chez les femmes de chez moi.